Radio Okapi.
La fin hier de la conférence économique mondiale de Davos en Suisse, sommet qui marque une rupture doctrinale pour la RDC selon le ministre du Commerce extérieur. La RDC est passée de la diplomatie de sollicitation vers celle d'influence et de partenariat. Julien Palouko revient ici sur la participation du pays. Mais dans ce journal aussi, la rencontre hier à Paris entre Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron. Nous parlerons de ce SOS de plus de 500 ménages retournés à Nyamamba en Ituri. Ils reviennent à la suite de l'accalmie sécuritaire de ces derniers mois, mais sur place, il n'y a rien pour les accueillir. Tout a été rasé lors de combats, femmes et enfants dorment dehors. Si vous souhaitez louer une maison, ne vous précipitez pas. Si vous le pouvez, prenez conseil auprès d'un avocat. Cela vous évitera de signer des documents qui se révéleront à votre désavantage plus tard. Conseil de Maître Dalia Chilanda, une avocate qui relève ici plusieurs entorses à la loi concernant la garantie locative. Elle est notre invitée. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est entretenu hier vendredi au palais de l'Élysée avec son homologue français. C'est dans le cadre d'une visite de travail en France à l'invitation d'Emmanuel Macron. Selon la présidence de la République, cette rencontre, marquée par un déjeuner de travail, a permis d'évaluer la situation humanitaire préoccupante dans l'est de la RDC, une situation aggravée par des offensives menées par les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs du M23 dans plusieurs localités du nord et du sud Kivu. Les deux chefs d'État ont également échangé sur divers dossiers liés à la coopération bilatérale. La même source précise qu'à cette occasion, la France a réaffirmé son attachement au respect de l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Et c'est ce même vendredi que s'est clôturée la conférence économique mondiale de Davos en Suisse. La RDC a pris une part active aux côtés d'autres leaders économiques du monde, des chefs d'État, des dirigeants d'entreprises, des experts et des représentants de la société civile. Pendant 5 jours, la RDC a mis en exergue ses potentialités naturelles et ses ressources minières dont le monde a besoin. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Palouku, nous en dit un peu plus sur l'importance de ce sommet et sur la participation de la RDC. C'est dans cet extrait sélectionné par Jean Ngandou.
À Davos, nous nous sommes présentés pas comme pour demander de l'aide, mais pour sceller des partenariats avec tous les grands du monde. Parce qu'ici à Davos, se réunissent 1. Tous les leaders mondiaux, 2. Tous les capitaines d'industrie, 3. Tous les responsables des organisations internationales pour définir la trajectoire qu'on doit suivre en 2026. Et donc, si on est absent ici, on ne sera pas partie prenante dans les schémas directeurs qui sont définis par les leaders mondiaux, qui en fait essaient un peu de tracer comment l'économie mondiale va devoir se comporter. Et vous savez, la RDC, ces grands pays qui tracent l'avenir de la planète à travers toutes les ressources dont nous disposons. Alors, il ne faudrait pas que les gens commencent à discuter de l'avenir de la planète avec un acteur majeur sans que lui-même soit partie prenante des décisions qui doivent être prises. Parce qu'on ne doit pas se plaindre tout le temps alors que nous avons devant nous des opportunités économiques qui peuvent nous permettre demain de devenir l'épicentre du développement de la planète. Et donc, Davos a été une rupture doctrinale, passée de la diplomatie des sollicitations vers la diplomatie d'influence et des partenariats.
Julien Palouko, ministre du Commerce extérieur. Le bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central affirme avoir accusé réception vendredi du réquisitoire de la Cour de cassation afin d'obtenir l'autorisation d'instruction contre Grace Bilolo, gouverneur de province. C'est après des rapports accablants issus des enquêtes de l'Inspection générale des finances. C'est ce que révèle un communiqué officiel de cet organe délibérant rendu public l'après-midi de ce vendredi. Ce document signé par Billy Ntunga, rapporteur du bureau de l'Assemblée provinciale, indique qu'il appartient désormais à ce bureau de se réunir afin de donner suite à cette demande du procureur général. Nana Plurich Mambo nous explique comment on en est arrivé là.
C'est le 15 août 2025, sur instruction de la présidence de la République, que l'inspection générale des finances a lancé des enquêtes au Congo central, révélant le détournement de plus d'un million de dollars américains. Avant de donner cette instruction à l'IGF, la présidence de la République a été saisie à 2 reprises par la cohésion provinciale des notables issus des 366 groupements du Congo central. Dans ces saisines, cette structure dirigée par Joseph Mabanga a signalé les détournements des deniers publics et la malversation financière à travers notamment la redevance pétrolière, la rétrocession des entités territoriales décentralisées, les détournements par achat des engins et tracteurs d'occasion en Angola avec des coûts très exorbitants. Pour les présidents de la cohésion provinciale des notables ici des 366 groupements du Congo central, cette enquête de l'IGF a été bâclée car la somme détournée doit s'élever à près de 50 millions de dollars et non à 1 million. Réagissant sur les réseaux sociaux, Martin Solo, chargé de communication du gouverneur des provinces, a affirmé que le gouverneur est informé de cette saisine et va présenter ses moyens de défense devant la représentation provinciale dès qu'il sera invité. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Notez que Joseph Mabanga, président de la cohésion provinciale des notables issus de 366 groupements du Congo central, compte faire une déposition auprès du président de la République et du procureur général de la Cour de cassation pour l'ouverture d'une deuxième enquête. Le Parti social-démocrate vert, PSDV, croit une solution diplomatique à la crise qui couvre dans la partie est de la RDC. Le président national de ce parti, membre de l'Union sacrée, a livré son point de vue hier vendredi à Kinshasa lors de sa rentrée politique. Cet acteur réitère également son appel aux Congolais de toute tendance politique à faire bloc contre les rebelles de l'AFC 123. Le propos de Léonard Cheokitundu, recueilli par Blaise Ndongala.
Le Parti social-démocrate vert exhorte le gouvernement de la République à faire preuve d'exemplarité et de proactivité dans l'accomplissement de la principale obligation que lui astreint le Conseil de sécurité des Nations Unies. En s'acquittant concrètement et avec détermination et transparence de cette obligation, d'une part, notre pays deviendrait irréprochable, couperait l'herbe sous le pied de l'agresseur rwandais en vidant ses allégations de toute pertinence, il se positionnerait comme le meilleur élève de l'exécution de la résolution 2773 qui constitue la feuille de route fondamentale pour le règlement durable du conflit. D'autre part, la République démocratique du Congo renforcerait crédiblement son plaidoyer auprès de la communauté internationale dont dépend la solution diplomatique à l'agression à laquelle elle est confrontée dès lors que l'option militaire a été unanimement exclue.
Cet ancien chef de la diplomatie congolaise regrette que le régime de Kigali continue de maintenir ses soldats sur le sol congolais, ce qui foule au pied les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Jeunes, écoles et universités au service de la paix et du bien-être en RDC et dans la région des Grands Lacs, c'est le thème d'une conférence qui s'est tenue hier à l'université catholique Omnia Unibus à Kinshasa. C'est une initiative du mouvement international des étudiants catholiques. Cette activité vise notamment à éveiller la conscience collective des jeunes afin de les amener à être artisans de la paix et du bien-vivre ensemble, tel que prôné par les évêques à travers le pacte social. Au cours de cette activité, étudiants et scientifiques ont apporté leurs idées en vue de promouvoir une société qui aura pour soubassement les valeurs chrétiennes et éthiques. Jean-Baptiste Sawanka, un des intervenants, explique un peu plus leur motivation.
Nous avons planifié, initié cette conférence en référence au pacte social initié par les évêques de l'Église SCC, tout en considérant que le message du pape François lors de sa visite en République démocratique du Congo serait une boussole éducative, morale, citoyenne pour refonder l'éducation de la jeunesse. Nous voulons proposer aux institutions éducatives en général d'être en dialogue avec la crise sociopolitique et sécuritaire dans notre pays et surtout de jouer les rôles en tant que creuset d'espérance parce que la jeunesse est l'avenir de la nation et que c'est dans cette jeunesse qu'il faut investir, qu'il faut éduquer aux valeurs de bien vivre ensemble.
Nous sommes en Ituri, à la suite de l'accalmie sécuritaire observée ces derniers mois à Nyamamba, dans la plaine du lac Albert. Plus de 500 ménages ont regagné cette zone en l'espace de 3 jours. Cependant, ces familles, parmi lesquelles des femmes et des enfants, passent la nuit à la Belle Étoile, faute d'abri. Leurs habitations avaient été détruites lors des affrontements l'année dernière entre les FRDC et les éléments de la rébellion CRP, Convention pour la Révolution Populaire de Thomas Lubanga. Ce retourné lance aujourd'hui un appel pressant à l'aide. Mais d'où viennent ces familles, Jean-Claude Loki?
Ces ménages proviennent principalement des sites de déplacés de Chomia et Kasenyi. D'autres reviennent de l'Ouganda où ils s'étaient réfugiés pour fuir des combats qui ont duré près de 8 mois. Depuis plusieurs mois, les autorités locales mènent des campagnes de sensibilisation en faveur du retour volontaire dans les villages d'origine. Un message qui a trouvé un écho favorable auprès de ces populations vivant dans une grande précarité, notamment en raison du manque d'assistance humanitaire. Mais une fois sur place, les difficultés sont immenses. C'est Lord Hakim Biaruhanga, responsable de l'ONG Coardo. Nyamamba ressemble aujourd'hui à un village fantôme. Il n'y a ni maison, ni latrine. Les retournés passent la nuit sous les arbres. Tout a été rasé lors des affrontements de l'année dernière, témoigne cet activiste des droits humains qui appelle à l'aide d'urgence.
Les besoins sont urgents. Abri d'urgence, eau potable et besoins élémentaires. Nous appelons les personnes de bonne foi, les humanitaires et les autorités à venir en aide à cette population qui passe ses nuits à la belle étoile.
Le seul centre de santé de la zone, réhabilité par le chef coutumier des Bahema Banyuagi, n'est ni équipé ni approvisionné en médicaments. Une situation qui expose ces populations à de graves risques sanitaires, en particulier chez les enfants et les femmes enceintes. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Okapi.
Merci Jean-Claude. Et pour protéger les civils face à l'insécurité persistante, les casques bleus de la MONUSCO intensifient leurs opérations en Ituri ainsi qu'au Nord Kivu avec des patrouilles renforcées et des actions conjointes avec les FARDC. Au Nord Kivu, des patrouilles conjointes robustes ont été menées le 20 janvier dans la région de Beni dans le cadre de l'opération Umoja, traduisée Union, afin de réduire les menaces sécuritaires. Et en Ituri, après la mort d'un civil à Djaïba, près de 3000 personnes, majoritairement des femmes et des enfants, ont fui Djaïba, Dego et Laoudjo dans les territoires de Djougou pour se réfugier autour de la base de la MONUSCO à Fataki. Ici, des patrouilles ont été renforcées et une équipe d'intervention rapide déployée. J'ai des précisions à ce sujet avec le lieutenant-colonel Charles Idiwa, porte-parole militaire de la MONUSCO. Il est au micro de Martial Papimukeba.
En Ituri, à la suite du tragique incident survenu à Djaïba le 17 janvier, la priorité est la protection des populations vulnérables. Les casques bleus ont renforcé les patrouilles, notamment de nuit, et mis en alerte une équipe d'intervention rapide afin d'assurer la sécurité des civils autour de la base de Fataki. Au Nord Kivu, la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO a mené le 20 janvier 2026 plusieurs patrouilles robustes avec les FADC dans le cadre de l'opération Umoja. Les contingents tanzaniens, malaisiens et kenyans ont été déployés de jour comme de nuit sur les axes Sayo, Beni, Mavivi, Mbau, Oicha et Rengeti pour dissuader et neutraliser les groupes armés illégaux. Ces actions contribuent à renforcer la présence sécuritaire, à réduire les menaces contre les civils et à promouvoir un environnement plus sûr, favorable à la paix et à la stabilité dans les deux provinces. La MONUSCO réaffirme que la protection des civils demeure au cœur de son mandat.
En Nord Kivu, le bureau de la coordination provinciale de la protection civile, provisoirement installé à Beni, a été doté jeudi de matériel de bureautique et d'engins roulants, dont 4 motos neuves. Il s'agit d'un apport de la section des affaires civiles de la MONUSCO. Cette dotation vise à renforcer les capacités opérationnelles du service provincial pour une meilleure réponse aux enjeux de la protection des civils dans la région. Cette assistance est saluée par le coordonnateur provincial de la protection civile au Nord Kivu. Pour lui, ces moyens mis à leur disposition vont aider à améliorer les conditions du travail de son service. Joël Ndagara, au micro de Marc Maroufimbo.
Tel que vous le savez, depuis que nous avons quitté Goma, nous nous sommes retrouvés à Beni pour notre installation, sans silo, et sans papier, et tout devrait recommencer à zéro. Raison pour laquelle nous apprécions vraiment en tout cas cet accompagnement de la MONUSCO, qui pourra nous permettre encore une fois de relever nos capacités, afin que nous puissions prester tel qu'il est demandé. Tel que vous le savez, la protection civile, c'est un service exigeant, c'est un service qui a encore besoin de beaucoup d'autres outils, et nous sommes toujours là, et nous demandons aussi à d'autres partenaires d'emboîter les pas de la MONUSCO, par le truchement de se servir des affaires civiles de la MONUSCO, qui est vraiment en tout cas notre partenaire clé. Avant que nous arrivions à Beni, il venait de nous construire un bureau à Goma. À part ça, il venait aussi d'équiper le bureau de la protection civile au niveau de Walikale, le bureau territorial de Masisi, le bureau territorial de Nyiragongo, le bureau territorial de Rutshuru. Voilà encore, la section des affaires civiles est en train de nous accompagner, nous comme coordination provinciale, afin que nous puissions nous installer et travailler vraiment en tout cas d'une manière digne, comme la protection civile doit l'être. Et c'est un grand plaisir, mais un plaisir qui est transformé surtout à une question de responsabilité.
Dans la province du Maniema, les cadres et agents de la Direction générale de recettes du Maniema sont en formation. C'est pour se familiariser aux innovations opérées au sein de cette structure pour la perception des recettes provinciales de façon digitale, afin de permettre à cette régie provinciale d'améliorer sa façon de travailler. Le directeur général de la DGERMA, Gabriel Kizengele, revient sur ses motivations et les attentes au micro de Florence Kizalunga.
Nous avions jugé bon, comme au début de l'année fiscale, de commencer par la formation des remises à niveau de nos agents, ces cadres de la DGRMA. Avec nos experts de la DGI et de la DGRAD, et ainsi les cadres de la DGRMA qui ont des connaissances avérées en matière de fiscalité. Il y a une réforme qui était entreprise par l'autorité provinciale. Là, je cite le gouverneur Moussa Kabankoubi Moïse, qui a initié des techniques aujourd'hui, les systèmes de digitalisation des perceptions des recettes de la province du Maniema. Et avec notre partenaire, une société Zewin, nous avions commencé. Et chaque fois que nous sommes vilipendés par la presse via la société civile pour la qualité de nos agents, et nous nous sommes dit qu'on commence aujourd'hui à réformer petit à petit nos agents pour qu'on change certains comportements et que nos agents aient aussi la maîtrise de l'instrument juridique sur la fiscalité.
Actualité internationale.
Les États-Unis ont quitté officiellement l'Organisation mondiale de la santé depuis jeudi après une année de préavis. Le départ avait été annoncé par Donald Trump alors qu'il faisait son retour à la Maison-Blanche puis notifié à l'ONU jeudi dernier. Ce départ prive l'OMS de 18% de son budget.
L'invité.
Il est nécessaire de se faire accompagner d'un avocat conseil avant toute signature d'un contrat de bail. Une recommandation faite aux locataires par Maître Dalia Chilanda afin d'éviter tout malentendu et toute modification non concertée du bail. Cette avocate invite à cette occasion les locataires à former en bloc pour lutter contre les abus des bailleurs. Maître Dalia Chilanda est notre invité et s'entretient avec John Chibobo.
Madame Dalia Chilanda, bonjour.
Bonjour.
La garantie locative aujourd'hui à Kinshasa est un casse-tête pour le Cunois. Chaque bailleur fixe le nombre de mois de garantie que le locataire doit donner à sa manière sans tenir compte de ce qui est prévu par la loi. Vous, en tant qu'avocate, qu'est-ce que prévoit la loi dans ces secteurs?
La garantie locative en ce qui concerne les habitations pour usage résidentiel est de 3 mois. Et lorsqu'on parle de l'usage professionnel commercial, il est de 6 mois. Malheureusement, nous constatons ici que cela n'est pas respecté. Tout simplement parce que l'État, il est vrai qu'il a mis à disposition des tests de loi, mais devait s'assurer de jouer son rôle d'arbitrage, mais aussi son rôle de porter sur cette casquette de sanctions contre ceux qui décident d'outrepasser les tests de loi.
En cas de non-respect, quels sont les mécanismes prévus par la loi?
L'État a prévu en cas de litige, avant de se présenter au devant des tribunaux, il faudrait passer d'abord par ce qu'on appelle conciliation. C'est à ce moment-là que le preneur qui s'est senti lésé ou s'est senti empiété dans ses droits peut prévaloir ses revendications telles que organisées par la loi.
La garantie locative suivra telle l'augmentation du loyer, supposons, j'avais donné une garantie de 450, lorsque le bailleur déciderait d'augmenter le loyer à 200. Ça veut dire aussi que la garantie augmentera suivant l'enchaînement logique du loyer.
Déjà, le cas que vous citez fait état d'une violation grave de la loi. Nous avons l'arrêté ministériel de 2018 portant sur le contrat de bail de type habitation et consorts, qui est clair en son article 11 pour dire que le loyer ne peut faire objet de réajustement au cours du contrat. Et ça, c'est clair. Donc déjà, sur cette base-là, on ne peut même pas tergiverser. Il est important ici de se faire accompagner d'un avocat afin de ne pas être victime de ce type d'abus. Parce que la loi, elle est claire. Il ne peut pas y avoir un réajustement. Et surtout que le contrat, il est en cours. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, nous avons deux types de contrats. Nous avons un contrat qui est soit durée déterminée, soit durée indéterminée. Et aussi, lorsque nous sommes dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la loi parle ici de la stabilité du bail qui va à 2 ans avant que l'on nous puisse parler d'une résiliation quelconque, à moins que cela ne vienne expressément du locataire. Donc, vous voyez un peu que nous sommes encadré par les lois, mais malheureusement, nous constatons l'absence de l'État, de l'efficacité de l'État dans l'application et qui ne sanctionne pas les différents récalcitrants.
Il y a aussi un phénomène des commissionnaires. Ils jouent un rôle important dans l'augmentation du loyer. Qu'est-ce que l'État est censé faire pour réglementer ce secteur des commissionnaires de loyer?
Le secteur de commissionnaires, comme on dit coursiers et consorts, en République démocratique du Congo est organisé. Parce que l'État enregistre, donne les différents titres à ceux qui se présentent à lui à ce titre-là. Mais malheureusement, encore une fois, il est d'usage ici à Kinshasa de voir que tout le monde peut s'improviser commissionnaire. Et encore une fois, cela participe finalement à ce désordre, à ce débat à laquelle nous assistons aujourd'hui, où tout le monde est roi dans son coin. Mais encore une fois, j'insiste en disant que c'est un cadre organisé par l'État lui-même. Malheureusement, l'État qui a failli dans sa mission d'avoir un regard insistant là-dessus, et aujourd'hui, les locataires se retrouvent victimes de cette situation.
Et aujourd'hui, comment peut-on reconnaître que cette agence des locations, des maisons d'achat parcelles ou ces commissionnaires est préconnue par l'État?
Il y a des agences qui ont toute la documentation qu'il faut puisqu'ils sont enregistrés par les services de l'État. Quand je dis agence pour personnes morales, mais aussi les personnes physiques, comme on dit commissionnaires, qui eux ont des numéros. Mais malheureusement, la tendance ici, c'est de vraiment demeurer dans l'informel. Et c'est là où je tire la sonnette d'alarme, insister pour dire qu'aujourd'hui, les locataires, on devrait penser, s'organiser afin de faire porter les voix au plus loin et aussi exiger à l'État d'avoir un regard assez efficace et punitif aussi sur cet aspect de choses, parce qu'aujourd'hui, on constate facilement que les commissionnaires ont un rôle assez important puisqu'ils sont maintenant le pont entre le locataire et le bailleur. Il est important en tant que citoyen de connaître les textes de loi qui sont légiférés dans notre pays. Il est important parce qu'il y a aussi cette part d'ignorance dans la part de locataires, et lorsqu'on est ignorant, même sur ce propre droit, finalement, on va se sentir victime alors que l'on est dans la légalité.
Maître Dalia Tilanda, nous vous disons merci.
Merci à vous.
Maître Dalia Tilanda, avocate interrogée par John Mochi Boaboa. Merci de l'attention accordée à ce journal préparé par Jules Mister Bilanda, mise en onde par Alain Gros et présenté par Babel Pongoma Simango. Madame, Monsieur, excellent week-end.